Europe 1 Sport, Lionel Rosso.
Jusqu'à 23h sur Europe 1, le débrief qui commence maintenant avec nos experts Anthony Tobelem, Cédric Chasseur, Jimmy Algerino, Jean-François Pérez est à Dublin. Au commentaire de cette rencontre, Jean-François avec Cyril de la Morinerie, 1-0 le but de Pavard sur lequel on va revenir, le match de Pavard bien sûr et ce but salvateur, mais surtout l'arrêt miraculeux, spectaculaire, extraordinaire et peut-être l'un des plus beaux. Franchement, de ces 10 dernières années, je n'ai pas en mémoire un arrêt aussi spectaculaire. Même Lloris en finale de la Coupe du Monde ou en 2018 nous avait sauvés sur des arrêts extraordinaires et spectaculaires. Mais celui de Maignan, il y a la classe, il y a ce côté félin et spectaculaire qui détonne véritablement. Avant d'ailleurs de parler plus globalement du match, moi j'aimerais avoir votre avis et faire un petit tour de table sur cet arrêt de Maignan qu'on peut considérer comme étant un but parce qu'il permet à la France de s'imposer, Anthony Tobelem.
Ah oui, non, clairement, il sauve la victoire de l'équipe de France. Son arrêt, il est fabuleux. C'est un gardien fabuleux. Maintenant, moi, je me refuse à rentrer dans un débat qui consisterait à se dire « Et s'il avait fallu plus rapidement titulariser en équipe de France ?» Non, Hugo Lloris a été extraordinaire. Vous parliez de 2018. Pour moi, il a été un des grands artisans du titre de champion du monde. Hugo Lloris, la seule chose qu'on retiendra entre guillemets de négatif, parce que c'est un exercice très particulier, c'est cette séance de tir au but lors de la dernière finale de la Coupe du Monde.
Bah oui.
Pour le reste, il a été magnifique, un super capitaine, et on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir un immense gardien. On a eu une époque où on avait Barthez Lama, bah là on a Lloris qui part, Maignan qui prend la relève.
Mandanda
et,
aussi.
Et Mandanda, non mais ce que je veux dire, c'est par rapport au côté bien titulaire à part entière. Donc à partir de là, il faut être extrêmement heureux d'avoir un gardien comme celui-là, parce qu'on peut déjà se dire qu'on a un gardien de classe mondiale qui peut nous permettre d'assouvir nos ambitions.
Mais on peut faire un petit peu de spéculation aussi par rapport à la finale de la Coupe du Monde, la dernière dont parle Anthony Tobelem, Cédric Chasseur. Il était blessé malheureusement, Mike Maignan, donc il n'y a pas participé. Mais s'il avait été là, peut-être qu'il aurait pu entrer en cours de séance de tir au but et faire la différence.
Ça aurait pu changer les changements de Didier Deschamps pendant la prolongation notamment, c'est sûr. Maintenant, ça me fait aussi penser que j'espère de tout mon cœur qu'il restera en santé, que les pépins musculaires, notamment au mollet, le laisseront tranquille et qu'il pourra poursuivre une carrière limpide, un peu comme l'a vécu Lloris d'ailleurs, sans blessure musculaire à répétition, parce que la France en aura besoin. Derrière, il y a du potentiel, mais pas à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment qu'on garde ce Mike Maignan en santé, parce qu'il fera gagner des points précieux plus qu'il n'en fera perdre à l'équipe de France dans les prochaines années.
Et il s'est tout de suite intégré avec cette équipe de France, en tout cas dans son rôle de titulaire, Jimmy Algerino.
Ouais, et puis je crois que ce soir, l'équipe de France a trouvé un patron, en plus de Kylian Mbappé, on en parlait, aussi de Rabiot. Mais c'est vrai que ce soir, je pense que Mike Maignan va devenir un des patrons de l'équipe de France. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est déjà, on a le collectif, et puis c'est bien d'en avoir un quasiment dans chaque ligne. Donc voilà, il a la confiance du sélectionneur, il a la confiance aussi de ses joueurs. Tous sont allés le voir, ont même mimé un petit peu son arrêt.
Bah oui.
Donc c'est bien parce que voilà, après Lloris et ce qu'il représentait pour l'équipe de France, Maignan prend sa place dans les buts, mais aussi en tant que leader.
Super Mike, et quand on se remémore Jean-François Pérez, cet arrêt, cette détente, sans élan, avec un plongeon latéral, ça va très très vite, c'est à mi-hauteur, c'est même plus haut que la mi-hauteur, il y a du Lama, il y a du Barthez, il y a du René Vignal.
Vous l'avez souvent vu jouer, René
Vignal. Non, mais j'ai vu des photos et on était exactement dans cette situation. Ouais. C'est-à-dire qu'il était parallèle à la ligne, comme l'était Maignan ce soir.
D'accord, bah on va dire que c'est un condensé de tout ce que les gardiens français ont fait de mieux au fil des générations. Hein. Du Joël Batz, on va tous les prendre là, parce qu'il faut tous les convoquer. C'était une parade inouïe. C'est une parade qui déjà à première vue, alors qu'on était à quelques mètres, nous a semblé stupéfiante. Et c'est vrai qu'on a revu les images là sur l'écran. Et plus ça va, et plus on se dit en effet qu'il a fait une Gordon Banks et que Nathan Collins, le défenseur irlandais qui avait mis un coup de casque monstrueux à 10-12 mètres de la cage française qui prenait donc la direction de la lucarne. Il avait déjà bu un but et il pourra dire j'ai marqué un but que Mike Maignan a arrêté. Parce que là, on est vraiment en effet sur une parade d'anthologie de la part de Maignan. On le disait pendant le commentaire, s'il y a un joueur qui a vraiment gagné sa place de façon absolument incontestable sur ce stage-là de deux matchs, c'est lui. Hein. Il arrête le pénalty contre les Pays-Bas à la dernière minute avec toutes les contractions. Il fait 2-3 arrêts parce qu'avant celui-là, il y en a quand même 2-3 autres, notamment un tir à angle fermé qu'il fallait aller chercher. Il fallait aller se mettre au sol avant que ça rentre. Il fait tout bien. Il a été nickel. Il n'y a rien à dire. Hein.
Qu'est-ce qu'on retient, Jean-François Pérez, à part cet arrêt extraordinaire dans cette rencontre? Il ne s'est pas passé énormément de choses. Il y a évidemment la solidité des Bleus dont nous allons parler dans quelques instants, mais individuellement ou sur des phases particulières, ce n'était pas le match si intense que cela que l'on attendait.
Non, parce que les Irlandais, je pense, avaient peur quand même de prendre plusieurs buts. Hein. Tout le monde nous le disait ici. Donc, certes, ils nous avaient promis de jouer au foot. Bon, ils ont moyennement tenu leurs promesses, mais en tout cas avec des vraies valeurs. Ils se sont projetés, ils sont allés physiquement vraiment chercher les Français. Ça a été un tout autre match, on s'en doutait, on l'a eu, que celui de vendredi dernier face aux Pays-Bas. Maintenant, c'est le type de match. Souvenez-vous, hein, il y a quelques mois, c'était déjà comme ça. On va retenir avant tout le résultat, la sérénité, parce que jamais les Français n'ont paniqué dans ce match, vraiment jamais, même malgré la pression du public. Après, j'ai envie de retenir, vous savez, il faut regarder quand même les bonnes histoires. Il y a celle de Maignan, bien sûr, et puis il y a celle de Benjamin Pavard, parce qu'il revient de tellement loin, cette Coupe du Monde, ses doutes, ses problèmes personnels, cette envie peut-être quelque part d'arrêter le football de haut niveau. Donc ce soir, il est là. En plus, il est dans le dur. Il prend un carton jaune et c'est quand même lui qui donne le but vainqueur pour l'équipe de France. Donc le retour de Benjamin Pavard ce soir, au-delà de Mike Maignan, c'est ça qui me fait le plus plaisir.
Et Didier Deschamps, j'aurais adoré être une petite souris à côté de Didier Deschamps au moment où Pavard est sorti, qui s'est attardé pour lui parler longuement à l'oreille, sans doute pour l'encourager, pour lui dire qu'ils ont bien fait déjà de se rabibocher un petit peu parce qu'il y avait eu sans doute une rupture entre les deux, mais également de se faire confiance et que Pavard l'a bien rendu à l'équipe de France et à Didier Deschamps en marquant ce but. Alors on débrief évidemment cette rencontre, mais on fait un point déjà sur le classement de cette équipe de France pour les éliminatoires de l'Euro. Les Bleus sont bien sûr leaders avec 6 points de victoire. La Grèce qui est deuxième et qui n'a joué qu'un seul match avec 3 points puisqu'elle avait battu Gibraltar 3-0 vendredi. Les Pays-Bas sont troisième, deuxième ex aequo. Ils se sont imposés ce soir contre Gibraltar mais ils avaient été battus par les Pays-Bas. Donc deux matchs au compteur des Pays-Bas et une seule victoire. L'Irlande, un seul match, une défaite bien sûr, et deux matchs pour Gibraltar et déjà deux défaites. Gibraltar, ce sera la prochaine étape pour l'équipe de France sur le Rocher au mois de juin, le 16 juin. Il y aura ensuite France-Grèce. Ce ne sera pas sur le Rocher ?
Non. Non, non, le stade n'est pas homologué pour un match de cette importance. Ce sera dans le sud du Portugal, sans doute à Faro, au sud de Lisbonne.
Très bien, ben, c'est une bonne précision, puisque moi je me voyais déjà aller passer à Gibraltar.
Désolé, je sais que Gibraltar, c'est pas loin du Maroc.
C'est en face, mais hélas, on le voit de Tanger, vous savez, de Tanger. Pour les habitants de Tanger, quand on vient sur le balcon, on voit le détroit.
On voit Gibraltar et on voit la ville natale de Luis Fernandez.
Tarifa, absolument, on voit Tarifa avec les petites lumières le soir, les Espagnols qui mangent à 22h. Magnifique, oui, je sais. La Méditerranée, la ligne de partage des eaux. Enfin bref, on reste sur notre match. Non mais c'est vrai, Tanger, le détroit de Gibraltar, c'est la ligne de partage des eaux entre la Méditerranée et l'océan Atlantique, les amis. Eh oui, c'est ça, le Maroc, c'est la pointe de l'Afrique, la corne de l'Afrique. On revient à notre match. Jimmy Algerino, tout se passe bien pour les Bleus, d'un point de vue comptable, ça va. Et même en termes de management, en termes d'organisation, même quand les Français sont dans le dur, ça résiste.
Bah, disons, vu la fin du match... C'est vrai qu'on commençait un peu à chauffer les oreilles de Deschamps en voulant un peu plus de changement, en faisant rentrer les frères Thuram. Voilà, donc il a été pragmatique. L'important, c'était de prendre les points rapidement, se qualifier, enfin, réussir à qualifier la France rapidement pour après peut-être voir plus de joueurs et donner la chance à certains joueurs, à certains jeunes. Là, ce soir, ça n'a pas été le cas. C'était vraiment... Il se doutait peut-être aussi que du fighting spirit des Irlandais jusqu'à la fin du match. Donc, ça a été le cas. Et voilà, heureusement que Maignan fait l'arrêt qu'il fallait. Et pour Pavard, après, c'est bien, mais je pense qu'il y a encore du questionnement, surtout sur l'aspect défensif.
Sur l'aspect défensif, et la question toujours du latéral, droite ou gauche, mais notamment côté droit. Ce but ne sauve pas forcément la prestation de Benjamin Pavard pour vous, Anthony Tobelem ?
Écoutez, pour moi, ça ressemble plus à... Alors, c'est un magnifique trompe-l'œil, mais ça reste un trompe-l'œil. C'est-à-dire que je vais être un peu caricatural dans ma manière d'échafauder les choses, mais qu'est-ce qu'on va retenir pour l'instant de la carrière de Benjamin Pavard en équipe de France ? Deux buts. Or, c'est un défenseur. Et sur l'aspect défensif, Jimmy a occupé ce poste-là, donc il en parle mieux que moi, il y a des carences qui sont énormes. Alors, ce soir, contre l'Irlande, ça se voit pas trop, sauf en première mi-temps où il se prend jaune, mais en deuxième mi-temps, il est presque pas sollicité, donc ça se voit pas. Mais, encore une fois, moi j'insiste, cette phase de groupe, avec en plus les deux premiers qui sont qualifiés et tout, elle va servir à peu de choses. Alors peut-être qu'on expérimentera des choses si mathématiquement on est qualifié, mais on va arriver à l'Euro sans avoir véritablement de réponse si on ne se sert pas de ces matchs qui ont plus l'allure de matchs amicaux quand on voit la qualité des adversaires pour tenter des choses, pour voir des choses, pour commencer déjà à se projeter sur l'Euro où ce sera beaucoup plus dur. Donc voilà, pour revenir au cas Pavard individuellement, pour moi, je le dis, je le répète, ça ressemble plus à un trompe-l'œil.
Les errances défensives de Benjamin Pavard, justement, Jimmy Algerino, est-ce que ce n'est pas dû aussi à l'évolution du poste ? Déjà, avec le Bayern, il ne joue pas toujours exactement à ce poste-là. Il n'est peut-être pas très à l'aise dans un poste de défenseur un peu à l'ancienne. Votre période, Jimmy Algerino, sans vous faire offense, c'est-à-dire qu'à votre époque, le latéral passait assez peu la ligne médiane. Il pouvait éventuellement contrer, mais il était surtout là pour défendre. Or, aujourd'hui, les latéraux, les joueurs de couloir ne sont plus vraiment dans ce rôle-là.
Oui, mais là, pour Pavard, parce que c'est quand même un vrai défenseur, puisqu'il aime jouer défenseur central. Donc je pense que c'est une réelle problématique de pouvoir bien défendre sur un côté. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'il y a la ligne, il y a le fait aussi de couvrir et d'éviter toutes ces passes et toutes ces rentrées entre le latéral et le défenseur, le central. Donc c'est là où je pense qu'il y a un manque d'expertise à ce poste-là, un manque de capacité sans doute aussi, et aussi une volonté, parce que défendre, il faut avoir la volonté de défendre, mais défendre sur un côté, c'est complètement différent. Donc il faut amener le joueur, il faut avoir envie de le bloquer, donc c'est là où il y a vraiment un chantier énorme pour Deschamps.
On continue le débat avec Antoine, l'un des auditeurs d'Europe 1 qui nous a rejoint pour réagir sur cette rencontre et la victoire des Bleu. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
On est ravis de vous retrouver, merci d'être là. Qu'avez-vous pensé de la prestation de cette équipe de France ? C'est vrai que d'un point de vue comptable, on le disait avec nos experts, c'est une très bonne chose, c'est la perfection même, les Français sont leaders avec 6 points en effet. Mais le match de ce soir, vous êtes-il convaincu ?
Finalement pas tellement, mais un petit peu comme tous les matchs, je dirais, où on se laisse un petit peu avoir soit par des scores fleuves ou soit par des prestations un peu comme face aux Pays-Bas où on se repose un petit peu sur nos attaques. Mais je trouve que finalement dans le contenu ou en tout cas dans ce qu'on voit même sur le plan défensif, même si on a pas mal de gars qui sont assez solides.
Alors on vous perd un tout petit peu, mon cher Antoine. On va essayer de rétablir la liaison parce que c'était très intéressant ce que vous étiez en train de dire effectivement sur la solidité française, sur le fait qu'on se repose sur l'attaque. C'est vrai, Cédric Chasseur, il y a peut-être aussi cet état d'esprit, mais je trouve qu'on a progressé un tout petit peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant très longtemps, avant la Coupe du Monde, on se disait est-ce que Didier Deschamps a un vrai projet de jeu ? C'est quoi le système Deschamps ? C'est quoi le système de jeu ? Bah là, je trouve que depuis deux matchs, on l'a quand même, non ?
Disons qu'il y a un fonctionnement. Déjà, c'est le même système utilisé pendant la fin de la Coupe du Monde et depuis les deux matchs. Là où je trouve qu'il y a du progrès, c'est que la France n'encaisse plus de buts. Ça, c'est quand même c'est un point problématique, notamment tout le début de la Coupe du Monde où la France était très perméable. Là, on s'est renforcé. Et évidemment, avec Maignan, ça change beaucoup de choses. Je trouve que Randal Kolo Muani en attaque apporte des solutions différentes, notamment d'Olivier Giroud. Et s'il y a un enseignement, moi, que je retiens, c'est que sur ce rassemblement et sur ces deux matchs-là, je pense qu'on peut se dire que Randal Kolo Muani est en train gentiment de dire à Olivier Giroud tu vas servir plutôt de super sub et puis moi je vais prendre la place de titulaire au poste d'attaquant central. Et l'autre enseignement, c'est quand même que le milieu de terrain où Rabiot reste une des pièces maîtresses, finalement, que ça soit Tchouaméni, que ça soit Kamavinga, il y a des pièces un peu interchangeables. Et il reste peut-être à Didier Deschamps des possibilités pour intégrer un ou deux nouveaux. Évidemment, je pense à Kefren Thuram, mais des joueurs qui pourraient justement prendre une place de titulaire un peu plus indiscutable que ne le sont aujourd'hui des Kamavinga ou des Tchouaméni.
Antoine, ce que vous retenez donc, c'est la solidité de l'équipe de France, mais peut-être cette fâcheuse tendance à tomber dans l'excès de confiance ?
Un petit peu, ouais, l'excès de confiance. Et puis, je dirais que malgré tout, moi, je trouve que dans le contenu, il n'y a rien de très, très concret. Je trouve qu'on est devenu, en tout cas face aux grosses équipes, une équipe qui laisse le ballon. Voilà, l'Irlande, qu'on peut considérer un petit peu comme, pas comme une très grosse équipe, finalement, se permet un petit peu de nous bouger. Et je trouve que, comme vous venez encore de l'expliquer, il y a quelques manquements à certains postes. Donc, on a des bases qui sont assez solides avec des anciens. Mais finalement, je pense qu'il y a des petits chantiers à droite, à gauche où il y a quelque chose à faire pour solidifier un petit peu cette équipe de France qui pour l'instant, dans les chiffres, ok, elle gagne, ok, elle marque pas mal. Mais je trouve que dans le fond, finalement, il y a un gros manque, il y a un manque de contenu, il y a un manque de... Je ne sais trop quoi. Et comme vous l'avez dit, finalement, je pense que Deschamps, il a un chantier assez compliqué sur plusieurs postes, notamment le poste d'arrière droit pour moi.
Bien sûr, Pavard, on en a beaucoup parlé il y a quelques instants. La France qui s'impose 1-0 ce soir contre l'Irlande, qui reste donc en tête de son groupe d'éliminatoires de l'Euro. S'il y a un joueur, une action, une idée un peu positive, Antoine, que vous retenez de ce match, ce serait quoi ?
Kolo Muani, je pense que c'est assez dit de ce joueur qui finalement il a une amplitude de travail finalement où il peut aller à gauche, à droite, dans l'axe et il s'arrête jamais de courir, il donne et finalement il est plutôt efficace. Voilà, même chose finalement, que ce soit à la place de Coman ou à la place de Giroud, je trouve moi qu'il a largement sa place et que c'est un petit peu le mec qui en veut et qui est là pour bouger un peu ceux qui pensent que leur place est toute faite ou en tout cas qu'ils ont déjà tout fait en équipe de France. Je pense que des gars comme Kolo Muani, il en faudrait un petit peu plus parce que prendre la place d'un Giroud, prendre la place d'un Coman, d'un Pavard qui pour eux sont juste satisfaits d'être sélectionnés, on dirait, et qui se donnent pas plus que ça finalement.
Merci Antoine d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 et merci de nous rester fidèles à Europe 1 Sport chaque soir du lundi au dimanche entre 20h et 23h. Jean-François Pérez, c'est vrai, Antoine a raison sur le cas de Kolo Muani. Avez-vous le sentiment que c'est scellé désormais, c'est difficile de le dire, il faut le dire vite en tout cas avec Didier Deschamps, mais que Kolo Muani fait partie des meubles et qu'il va, que ce soit dans l'axe ou que ce soit sur le côté, s'installer comme un titulaire en puissance dans cette équipe de France, parce qu'il y a quand même des Coman, il y a Giroud aussi dont on parlait tout à l'heure, mm-hmm. qui est toujours dans les parages. Est-ce que pour vous il a marqué plus que des points?
Le problème c'est qu'il n'a pas marqué. Je vais être un petit peu critique, mais c'est quand même son poste. C'était son poste contre les Pays-Bas. Ce soir, en effet, il était excentré sur la droite. Il a proposé des choses extrêmement intéressantes, Kolo Muani, parce qu'il a un volume de jeu, il agresse les défenses, il est présent, il ne perd pas de lucidité ou très rarement dans ses gestes offensifs, même après des courses à haute intensité, comme on dit. Donc, c'est un attaquant moderne, racé, extrêmement intéressant. Contre les Pays-Bas, on aurait bien aimé le voir marquer. Ce soir, je dirais que le match a été peut-être un petit peu plus dans le devoir, dans le sacrifice aussi. C'était une façon pour Didier Deschamps de le tester à un autre poste pour voir si c'était une alternative crédible, on va dire, à Kingsley Coman. On le préfère quand même en pointe dans l'axe et je pense que ce sera là désormais que son talent s'exprimera le mieux, en pointe de l'attaque avec Mbappé à gauche et avec sans doute Coman à droite. Et je pense qu'Olivier Giroud va devenir petit à petit, mais c'est très très bien ainsi, hein, remplaçant et super sub de cette équipe de France pour entrer dans les dernières demi-heures.
Il a été tellement souvent d'ailleurs en plus Olivier Giroud. Ça se passerait bien comme ça, Anthony
Todd. Ça lui va très très bien. Ouais. Je veux dire, Olivier Giroud, aujourd'hui, il est totalement conscient, je pense, que physiquement, il ne peut pas avoir le volume de jeu d'un Kolo Muani.
Impossible.
Et que si demain, on le fait rentrer 70e, 75e pour débloquer un match, enfin, il sera très heureux. Pour lui, tout ce qu'il va prendre maintenant, c'est du bonus. Et je pense que son envie, c'est d'impacter cette équipe de France quand il rentrera, de pouvoir aller le plus loin possible avec ce record avant que Kylian Mbappé ne le batte, et il s'en satisfera très bien.
Kylian Mbappé, justement, que l'on n'a pas trop vu, mais on l'a précisé tout à l'heure, Jimmy Algerino, il était pris dans le dispositif. Il s'est battu, néanmoins.
Ils ont été studieux, je crois que tout le monde a été studieux. Voilà, ils ont respecté, l'important c'était de gagner. Après, voilà, la folie viendra peut-être après, ou face à... Dans un match où il y aura beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de rivalité aussi. Mais ce soir, voilà, ils ont fait le travail, ils ont fait le job.
C'est vrai. On ne peut pas leur reprocher. Hein.
Non, voilà.
Ils ont été sérieux.
Scolaire, on va dire, oui, ça, scolaire. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans leur champ d'action sans forcément dépasser un peu la fonction, sauf ce qu'a fait Pavard sur le but. Voilà.
Rangez votre cartable, Cédric Chasseur, s'il vous plaît. L'équipe de France a été scolaire, mais elle s'impose sur le score de 1-0. Merci Cédric de nous avoir accompagnés. Merci à Jimmy Algerino, Anthony Tobelem. Merci à Jean-François Pérez. Bon retour. Ramenez-nous un échantillon de sauce quand même. Un fond de sauce, quoi, Jean-François.
Avec Irish sauce. Et peut-être, si vous êtes sage, une petite mignonnette de whisky aussi.
On adorerait goûter tout cela. Bonne soirée. soirée. N'oubliez pas que l'info commence très tôt demain sur Europe 1 à 5h avec Alexandre Lemaire et Ombim Roche, ainsi que toute la rédaction d'Europe 1 qui vous accompagne pour un premier tour complet de l'actualité. Donc rendez-vous demain dès 5h.